signe avec moi. Laure Lécuyer, bonjour.
Bonjour.
Signe avec moi, c'est une association qui est sur le signe par rapport aux tout petits, c'est ça?
Exactement.
C'est signe, c'est le langage des signes en fin de compte.
C'est des signes qui sont issus de la langue des signes, donc qui sont empruntés à la langue des signes. Et en fait, on essaie de les adapter aux enfants en les choisissant, mais par contre, on les garde. Enfin, c'est vraiment les signes exacts de la LSF, la langue des signes française.
D'accord, mais vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes venue en force.
C'est ça.
Avec deux partenaires de l'association. Hélène, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Très très bien.
Alors
merci.
Vous êtes dans l'association depuis longtemps?
Depuis longtemps, c'est une bonne question. Pas si longtemps que ça, depuis 2013.
Ah bah
exactement.
Ça fait trois ans maintenant.
Voilà,
ça,
à peu près, tout à
d'accord.
Fait.
D'accord. Et puis Dominique, bonjour Dominique. Vous êtes dans l'association depuis combien de temps?
Alors un peu plus longtemps que mes chers camarades,
ouais.
Puisque j'y suis depuis 2009.
Ah oui.
J'ai rejoint le réseau en 2009. J'ai appris la LSF donc, et puis à ce jour, je suis trésorière du réseau national.
Ah oui, en plus. Vous avez un poste important alors. C'est vous qui tenez les cordons de la bourse.
Voilà.
Alors, Laure, signe avec moi, créé en quelle année? C'est Dominique qui va nous dire.
C'est Dominique qui a l'historique.
2006.
En 2006.
En 2006.
Ah oui, donc c'est
on vient de fêter les 10 ans. Donc il y a une dizaine d'années. Les 10 ans, oui, l'année dernière.
Alors, pourquoi créer une association sur les signes par rapport aux tout petits, aux bébés, etc.? Quelle était l'utilité en fait de cette association au départ?
C'est la base en fait de notre existence,
ouais.
Hein, c'est-à-dire de proposer aux tout petits de s'exprimer avec leurs mains,
ouais.
Puisqu'ils n'ont pas encore la
faculté. Ils n'ont pas le langage.
De prononcer des mots.
Mmh. Donc c'est ça, c'est avec les mains. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un rapprochement avec les malentendants? C'est pas les mêmes signes, je suppose.
Rapprochement, il est là, en fait, c'est la langue.
C'est la langue des signes.
C'est la langue des signes qui est le mode de communication des sourds et des personnes malentendantes.
Et c'est la même chose, les mêmes signes qu'on va utiliser avec les tout-petits.
Voilà, mais on n'utilise simplement que les mots de vocabulaire. Mais on n'utilise pas la syntaxe de la langue des signes, qui est très particulière.
D'accord.
Et qui ne voudrait absolument plus rien dire.
Ça ne voudrait rien dire pour un tout-petit.
Voilà, exactement. Donc, on va placer des signes sur les mots importants de la phrase qui a la syntaxe française.
D'accord.
Et on va du coup parler davantage de français signé plus de langue des signes.
On va parler
de français signé, dans la mesure où on met les signes dans le même ordre que la langue française.
D'accord, je commence à comprendre un petit peu. Laure, vous avez rejoint l'association il y a combien de temps?
Pareil, en 2013.
En 2013, et vous êtes orthophoniste de profession.
C'est ça.
Donc il y a un lien, en fin de compte, entre votre métier et ce qui se passe dans l'association.
Oui, tout à fait. Effectivement, moi j'ai appris la langue des signes parce que j'ai travaillé avec des enfants sourds.
Mmh.
Dans un CAMS, et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre et à communiquer avec ces enfants sourds. Et puis après, j'ai travaillé en libéral avec des populations beaucoup plus mixées, des enfants dysphasiques, des enfants avec des difficultés de langage oral. Et les signes sont apparus naturellement dans mes mains. Je me suis mis à signer et je me suis rendu compte que ça leur apportait beaucoup, beaucoup de bienfaits en termes de compréhension déjà du langage oral, parce que ça leur a permis de mieux comprendre ce que je disais, de pouvoir positionner des concepts beaucoup plus stables et plus forts. Et puis après, eux, ils ont pu s'en emparer aussi. Et du coup, en attendant de pouvoir bien s'exprimer, la langue des signes, enfin, les signes de LSF sont venus vraiment renforcer leur langage oral. Et puis petit à petit, du coup, je me suis renseignée, j'ai cherché un petit peu, j'ai voulu monter des formations pour orthophonistes, justement pour former les orthophonistes à ce français signé qui n'est pas de la LSF pure, mais qui est quand même inspiré de la LSF. Et du coup, grâce à ça, j'ai rencontré Christine Nougarol, qui est une personne qui fait aussi partie du conseil d'administration de Signes avec moi.
Mm-hmm.
Et puis petit à petit, je suis rentrée aussi à l'association, je me suis formée avec Hélène, donc, et puis maintenant on s'éclate.
Vous éclatez carrément.
On peut le dire avec les parents, avec les bébés, et avec les nôtres aussi. Voilà,
et les professionnels de
la petite enfance.
Qu'est-ce qui a fait que quelqu'un un jour a dit tiens, on va créer une association par rapport aux petits? Parce que moi j'ai eu des enfants aussi et jamais on a pensé à ces. Enfin, je crois que ça se fait naturellement. Je serais tenté de dire, pour le peu que je me rappelle, quand mes enfants étaient tout petits, parfois on fait des gestes parce que comme on sait très bien qu'ils n'ont pas le langage, mais c'est inconscient, je serais tenté de dire. Alors qu'est-ce qui a fait qu'un jour on a dit on va mettre un système en place?
En fait, c'est un système qui existe aux États-Unis depuis 40 ans maintenant.
Encore les Américains.
Oui, je suis désolée.
C'était avant le fou furieux qui les dirige, là. Avant le bon dîner. Voilà. Qui parle beaucoup avec des gestes, d'ailleurs. C'est marre, il a des gestes tout le temps.
Vous savez, les orateurs, on leur coupe les mains.
Oui, oui. Et ils sont foutus. Mais déjà, même avec leur cerveau, ils sont foutus de toute façon. Donc alors ça, c'est donc une méthode américaine.
Qui a apporté ses preuves. Oui, tout à fait. Qui a apporté ses preuves. Et c'est une maman entendante, ouais, qui est séjournée aux États-Unis et qui a découvert ce concept. Elle l'a proposé à son enfant et elle s'est rendue compte qu'elle avait une communication vraiment facilitée grâce aux signes. Donc elle a suivi des stages auprès de la personne qui s'en occupe là-bas,
ouais. Joseph Garcia.
Tout à fait, Joseph Garcia. Et elle a ramené le concept en France.
En France, d'accord. Ouais, c'est...
Elle a rencontré une autre personne sourde et à toutes les deux, elles ont mis en place, elles ont créé l'association Signe avec moi.
Eh ben, on va discuter un petit peu de tout ça pour essayer d'en savoir un peu plus. Alors première pause musicale, vous avez choisi. Alors Franck, toi tu connais pas, c'est évident, parce que Anne Sylvestre, ça ne te dit rien du tout.
Ah, pas du tout, non.
Non, mais ça je me doutais de toute façon. Mais bon, pour les auditeurs, ils le savent, Franck, les chanteurs anciens. Même les nouveaux, parfois, ils ne les connaissent pas. Hein. Oui, on est bien d'accord. Lui, c'est la musique et la musique.
Voilà.
Hein, en gros, c'est ça.
Voilà, non commercial.
Alors, Anne Sylvestre dans Tortue têtu, c'est une petite chanson marrante. C'est...
Oui, bah, Anne Sylvestre, ce sont toujours des chansons rigolotes.
Anne Sylvestre étant une chanteuse tournée plutôt vers la jeunesse, globalement.
Oui, globalement, hein, oui.
Elle a fait aussi des concerts hautes, mais...
Oui, tout à fait. Moi, elle a bercé toute mon enfance.
Ah bon, bah, alors on écoute.
Tu ne montres pas ta tête, mais pourquoi la rentres-tu? À te cacher, tu tentes de rentrer en tes pattes pointues. Tortue, pourquoi ta tête, sans t'arrêter, tu te taire, mais pourquoi te taire-tu? Tu t'obstines à te taire comme si on t'avait battu. Te creuse ta retraite, mais pourquoi te hantes-tu? Pour l'hiver qui sera prête, t'es très chaudement vêtu. Tortue, pourquoi ta tête, tu tortues, tu es têtu.
La francophonie, c'est chaque jeudi de 11h à midi avec Didier Lorenzini. Alors, n'oubliez pas votre passeport francophone.
Et là, bah, on est dans la francophonie, mais avec le langage des signes, avec Laure, Hélène et Dominique. Vous vouliez compléter un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la naissance de l'association.
Tout à fait. En fait, Dominique a expliqué que du coup, il y avait une personne aux États-Unis qui avait vécu aux États-Unis, mais qui était française. Elle s'appelle donc Monica. Non, Nathanaël. Nathanaël Boulier-Charles. Ouais. Et après, quand elle est revenue en France, elle a rencontré Monica Compagnie. Et c'est elles deux qui ont créé l'association Signe avec moi, donc en 2006.
Et elles sont toujours dans l'association ou...
Plus actuellement, elles sont parties vers d'autres horizons. Voilà.
D'accord. Cette association aujourd'hui, donc, elle est nationale.
Tout à fait.
Vous êtes l'antenne lyonnaise, je suppose.
Rhône-Alpes.
Pour Rhône-Alpes.
Oui.
Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, puisqu'on a changé.
Oui, on va dire.
Carrément. Hein, c'est... Et en France, il y a combien de régionales, entre guillemets, donc à peu près, hein, on n'est pas à 4-5 près. Vous avez une idée du nombre
C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'animatrices,
oui,
qui ont suivi des stages. Donc
350.
Pour, 350.
Ah oui, quand même. Ah, ça fait du monde. Hein.
Oui.
Ah oui.
Mais elles ne sont pas forcément toutes en activité.
Oui.
Pourquoi? Parce qu'elles se sont rapprochées de l'association Signe avec moi quand leur enfant était petit.
Oui, bah, souvent.
Et puis les enfants grandissant, eh bien, elles ont aussi d'autres horizons. Mmh. Et elles se détachent de
bah
l'association.
Oui. On suit l'évolution des enfants.
Mais au total, il y a eu davantage de... on n'est pas loin de 400. Hein.
Ah oui.
400 personnes qui ont été formées pour animer des ateliers parents-bébés.
Alors voilà, donc maintenant on y vient, donc ces ateliers parents-bébés, c'est-à-dire, alors expliquez-nous comment ça fonctionne. C'est une séance qui dure combien de temps? Est-ce que c'est d'abord avec les parents, puis après avec les bébés? Est-ce que c'est tout de suite père-mère et enfant en même temps? Ben, expliquez-nous un petit peu tout ça.
Alors, en fait, chaque animatrice va pouvoir éventuellement modifier quelques petits aspects pratiques, donc on n'a pas forcément exactement les mêmes modalités. En revanche, on a formalisé un concept, on va dire, un protocole. Donc on balaye 6 thèmes qui correspondent au quotidien de bébé, donc par exemple la toilette, la famille, les animaux, la nourriture, etc. Et puis donc sur ces 6 thèmes d'une heure environ.
Ça dure après, une heure.
Bah, en fait, par exemple, moi je fais des ateliers d'une heure et demie. Mm-hmm. Donc je fais un thème et demi à
chaque fois. C'est long, une heure et demie pour un tout petit, non?
Moi c'est un format qui me convient mieux, mais d'autres vont faire une heure, d'autres mm-hmm. plus. Ça va dépendre aussi de l'éloignement des familles. Voilà, on va peut-être parfois un petit peu condenser. Parfois on va étaler, au contraire. Moi je trouve qu'une heure et demie c'est un format qui me convient bien, parce qu'effectivement les bébés ça fait long, ça fait un petit peu long, mais en fait moi je trouve que ça se passe très très bien. Et puis le temps de s'installer, etc., c'est vrai qu'une heure ça passe très vite.
Oui, ça aussi.
Donc
c'est vrai.
Voilà.
Et en général, vous avez les deux parents
alors,
ou
moi, je trouve...
un seul, ou comment ça se passe?
Alors déjà, on a toujours les bébés, hein,
oui,
ça, c'est vraiment des ateliers.
Oui, ça leur est destiné de toute
oui,
façon.
Oui, mais même quand ils sont tout petits, hein, même à un mois.
Vous commencez à un mois?
Ben moi j'ai eu des bébés tout petits, oui.
Ah, et vous commencez à un mois?
Ben oui.
Et à un mois le bébé perçoit des choses?
En fait, j'ai les bébés que j'ai eu en atelier, alors je parle de mon expérience personnelle, que j'ai eu en atelier qui avait un ou deux mois. Du coup les ateliers se sont étalés, ils avaient à peu près deux mois et demi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des ateliers, on a vu des enfants qui étaient totalement différents, qui étaient capables de rester face à moi et plus dans les bras des parents, et être complètement captivés par ce qui se passait, par les chants. Bah, dès qu'on bouge et qu'on chante, les enfants, ils sont...
Oui, c'est vrai.
Alors, c'est vrai qu'au niveau des capacités d'attention, moi, j'ai été vraiment surprise.
Parce que c'est vrai, une heure et demie, c'est long quand même. Enfin, moi, je trouve,
alors, hein. Ils n'ont sûrement pas été attentifs oui, complètement une heure et demie. Oui. Mais c'était quand même des enfants qui étaient captivés, et les parents eux-mêmes étaient très surpris. Alors, évidemment, hein, ça, on change une couche, on tête un petit peu la maman, voilà. Et puis, pour revenir sur l'histoire du couple, nous, on privilégie vraiment quand on peut avoir les deux parents, parce que c'est un projet de famille, donc on ne se met pas à signer comme ça, juste un tout petit peu. Si on s'engage dedans, il faut quand même être très constant, régulier, utiliser quelques signes, pas forcément beaucoup, mais en revanche, il faut quand même les faire rentrer dans nos routines quotidiennes. Donc c'est important que les papas aussi s'y mettent. Et le dernier atelier que j'ai fait, la dernière session, j'avais trois papas sur six familles, donc c'était plutôt bien. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir aussi de voir les papas qui s'amusent bien aussi,
qui sont parfois réticents un petit peu à la base.
Ah oui, bon, les papas sont plus réticents que les mamans?
Oui, souvent.
Et pourquoi? Comment ça s'explique?
Parce que je pense qu'ils ne voient pas forcément l'utilité de l'outil, etc. Mmh. Et puis, mal à l'aise aussi avec le
peut-être aussi, l'écran. Mais c'est vrai que moi j'ai souvent remarqué que dès que bébé se met à faire un signe, et ben papa trouve ça extraordinaire et du coup commence à s'y mettre.
Mais c'est vrai qu'à la base, c'est souvent davantage l'initiative des mamans.
C'est les mamans. Ces ateliers, c'est combien de familles maximum dans chaque atelier? Parce que je suppose que c'est pas famille par famille. Vous faites ça sous forme de groupe.
C'est pareil. Je sais que sur la France, il y a des animatrices qui vont prendre plus de familles parce qu'elles sont en zone rurale et que pour les gens, c'est compliqué de s'organiser, etc.
Oui.
Moi, je trouve que 6 familles, c'est bien.
Oui, ça peut faire donc 6 bébés et 12 adultes éventuellement.
Ouais, alors, on a rarement 12 adultes, oui. Mais c'est vrai que c'est mieux d'être moins de 10 adultes quand même. Hein. Je trouve que après, c'est parce qu'on fait des tours de parole, on fait beaucoup de jeux. Pour apprendre, en fait, on utilise des supports, des moyens. Donc, du coup, il y a des jeux, des comptines, etc. Et quand on est très nombreux, pour faire les tours, ça prend forcément plus de temps. Quoi. Donc,
vous dites il y a des comptines, il y a des jeux. Ça aussi, c'est l'association qui vous fournit tous les outils, où chaque animatrice organise son atelier en fonction des comptines qu'elle connaît ou des chansons qu'elle connaît.
Alors il faut savoir que Signe avec moi, c'est quand même l'association historique du concept en France, et que c'est vrai que là on est fort de 10 ans d'expérience d'animation. Donc, au fur et à mesure, la formation s'est enrichie. Mmh. Aujourd'hui, c'est une formation, je peux en témoigner, relativement difficile.
Ah oui ?
Oui, vraiment. Il faut déjà avoir un niveau 1 de LSF minimum pour pouvoir devenir animateur.
Alors, quand vous dites le niveau 1, c'est quoi le niveau 1 ?
Bah, c'est une semaine de formation, à peu près.
Pour déjà, au moins, s'approprier ce fameux langage des
signes. Voilà, c'est-à-dire qu'un niveau 1 de LSF, ça veut dire qu'on a forcément déjà rencontré des sourds. Rencontré la communauté sourde, eu un prof de langue des signes, parce que c'est très très particulier d'apprendre la langue des signes. Donc on s'est confronté déjà à ce monde-là, et on vient pas là par hasard. On vient pas là pour apprendre des signes, on en connaît déjà, mais on a envie de faire ça pour les bébés. Donc du coup, la motivation est un peu différente. Et puis après, c'est vrai que dans le cadre de la formation, on a toute une formation axée sur la bienveillance, axée sur les techniques d'animation, axée sur, on travaille bien justement
le développement du langage.
Le développement du langage, ouais. Etc. Et puis le déroulé, comment ça va se passer. Après, on a des pistes pour comment on peut. On nous donne des idées de jeux, de chansons, etc. Mais durant cette formation, on est invité à créer, à beaucoup créer. Donc c'est vrai que on y va, on met les idées, on brainstorming. Nous, on a travaillé en groupe et c'est vrai que c'était très riche. Et puis on a créé donc des comptines. L'élément, c'est vraiment créer des comptines en fonction de ce qu'on voulait travailler avec les parents. C'est vrai que je dois dire, en tant qu'orthophoniste qui fait beaucoup de formations, que c'est une formation très riche, de qualité, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde, parce que ça demande de beaucoup lire, beaucoup s'imprégner. Signer avec moi, c'est costaud, mais c'est passionnant.
Pour devenir animatrice.
Pour devenir animatrice.
Donc ça veut dire qu'il faut avoir une bonne base, de culture générale.
Non, c'est pas ça, c'est que ça va nous demander un travail, ça va nous demander de réfléchir. On doit rédiger un dossier de certification, qui est comme un petit mémoire, qui va nous justement aussi nous amener à pouvoir présenter le concept, à pouvoir répondre à des questions, à des gens qui nous posent des questions, et puis aussi à faire face à des situations compliquées. Parfois, en atelier, on va avoir des parents qui sont pas très à l'aise dans leur parentalité, qui sont un peu démunis, qui ont des problèmes d'allaitement, de XY problèmes qu'ils rencontrent. Et c'est vrai que moi, je l'ai eu beaucoup dans les témoignages de parents qui disaient que c'était le premier lieu où ils s'étaient sentis bien après l'arrivée de ce bébé. Souvent, c'est un premier bébé. On a souvent des premiers parents dans ces ateliers.
Et apprend le métier de parent, là.
Mais un peu, c'est un petit peu ça. Ils arrivent. Et puis dans les témoignages, c'est beaucoup ressorti. Ils n'osaient pas sortir avec leur bébé qui était tout petit et qu'ils étaient mal à l'aise avec tout ça. Et finalement, une fois qu'ils étaient là, ils se sont rendus compte avec d'autres parents que c'était possible. Ça leur a fait du bien de voir que leur bébé aussi s'épanouissait. Et puis les signes, c'est vraiment un moyen pour rentrer en contact avec son bébé. Moi, je l'ai vécu, je crois qu'on l'a tout vécu autour de la table. Ça enrichit vraiment le lien avec le bébé.
Allez, on continue en musique. Alors là, vous avez choisi Aldebert. Aldebert, c'est un chanteur, c'est une chanteuse ?
C'est un homme.
C'est un homme.
Oui, qui a fait beaucoup d'albums autour de la petite enfance. Et c'est plutôt comique aussi.
Et lui, il nous chante qu'on ne peut rien faire quand on est petit. Oui, on est un peu d'accord quand même.
Voilà.
C'est parti.
Va chercher sur le fond du voisin les fléchettes de ta carabine. On ne teint pas les cheveux du chien avec la bouteille d'encre. Laisse ta mamie se reposer. Son fauteuil n'est pas un vaisseau. Tu ne peux pas la démonter. Ta grand-mère n'est pas un robot. Mais enfin, où est-ce que tu as vu pour empousser les pieds de vin? Pour savoir si notre tortue savait nager dans sa manière. Et quelle est cette tente de rimonde? Combien de fois dois-je te rappeler que notre four à micro, on ne lit pas les débiles. On ne peut rien faire quand on est petit. Bien faire tous ces amèris. Un jour viendra où j'aurai tous les droits. Et ce jour-là, la loi, ce sera moi. C'est tous les jours, poisson d'avril. Tu sais vraiment, il y en a plein d'autres égaux. Plein d'automobiles, elle est Playmobil dans le frigo. Le hamster est devenu obèse depuis que tu lui donnes le biberon. Avec le tube de mayonnaise, je suis pas sûr qu'il trouve ça bon. Jouer au docteur, ce n'est pas bien. Et là, franchement, tu exagères. On pratique pas sur son cousin. Opération à cœur ouvert. Il y a de quoi tomber dans les pommes. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Il a dessiné un bonhomme pour éviter la surmontante. On ne peut rien faire quand on est petit. Ça commence à bien faire tous ces interdits. Un jour viendra où j'aurai tous les droits. Et ce jour-là, la loi, ce sera moi. Comment peux-tu expliquer ça? demander la télécommande, la télé dans la caisse du chat et les proches du genre. Veux-tu laisser ce chat tranquille? Regarde au moins cette pauvre bête. On ne fait pas le Scooby-Doo avec une moustache de préfet. Qu'est-ce que fait ta sœur dans le cerisier? Comment ça elle est en orbite? Combien de fois dois-je te le répéter? Justine c'est pas un satellite. On est tranquille que quand tu dors. Et encore que la dernière fois, on a retrouvé une boule de porc entre les églises et sous les draps. On ne peut rien faire quand on est petit. Ça commence à bien faire tous ces interdits. On ne peut rien faire quand on est petit. Ça commence à bien faire tous ces interdits. Un jour viendra où j'aurai tous les droits. Et ce jour-là, la loi se sera moi. Ce jour-là, je serai le roi. Et ce jour-là, je ferai n'importe quoi. Fais pas ci, fais pas ça. Tu vas tomber, qu'est-ce qu'on t'a dit? Fais pas ci, fais pas ça. On a plus que dit ton père. Fais pas ci, fais pas ça. Range ta chambre et ta lourde. Fais pas ci, fais pas ça. Écoute un peu ce que dit ta mère.
Mais ce que je dis, on peut rien faire.
La radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde.
On est toujours avec l'équipe lyonnaise de Signe avec moi, Laure, Hélène et Dominique. Depuis le début, vous utilisez le terme animatrice. Il n'y a pas d'animateur ?
Et non. Il y en a eu.
Ah, pardon. Ah, il y en a eu quand même. Il y a des hommes qui ont été candidats quand même à une époque.
Il y en a eu quelques-uns, mais oui.
J'ignorais.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup, donc quasiment que des femmes et très, très, très peu, voire pas du tout d'hommes?
Si ça n'intéresse pas les hommes, peut-être que vous pouvez nous le dire.
Ah, mais moi, je ne sais pas. Moi, je découvre en même temps que vous, là. Moi, je découvre votre association. Donc,
c'est vrai voilà. Que je le dis souvent, d'une manière générale, j'ai noté que la langue des signes attirait davantage les femmes.
Ouais.
Lorsque j'étais en formation de langue des signes pure, parce que moi aussi je suis passée par ce biais-là, en formation je n'avais quasiment que des collègues.
Mais maintenant que vous le dites, c'est vrai, quand on voit les certaines émissions de télévision où dans le petit coin en bas à droite de la fenêtre, on voit quelqu'un qui fait le langage des signes pour traduire ce que les hommes ou les femmes disent, c'est souvent une femme qui fait cette traduction. Maintenant je réalise.
D'une manière plus large, dans les métiers de la communication, c'est quand même beaucoup plus les femmes.
Vous êtes en train de prendre votre place.
Ah, on n'a rien dit, nous. Après vous faites
les conclusions. Je crois qu'on est en train d'assister à un changement un petit peu, parce que je trouve que j'ai eu beaucoup de papas en atelier qui étaient très très intéressés par tout ça. Après, le problème aussi, c'est leur disponibilité par rapport au travail, bien sûr.
Alors voilà, parce qu'en fait, venons-en un petit peu à ça, parce que bon, vous faites ça, c'est, en gros, je dirais, c'est un complément à votre profession d'orthophoniste.
Pour moi, oui.
Bon, par contre, je suppose qu'il y a d'autres animatrices qui doivent avoir un autre métier dans la vie et qui font ça en plus bénévolement, à titre bénévole, non?
C'est pas bénévole, étant donné que les parents payent une
institution. Ah, donc quand vous animez un atelier, il y a une rémunération pour l'animatrice?
Oui, voilà. Oui. Après, on peut pas en vivre, hein. Ça c'est sûr.
Non, non, non,
si
non,
on en faisait toute la journée, c'est pas beaucoup.
Les ateliers ont lieu plutôt en fin de journée, parce que les parents travaillent, donc...
Alors, ça dépend des animatrices. Moi, il se trouve que, étant maman moi-même, je ne souhaite pas prendre sur mon temps personnel pour proposer ces ateliers. Du coup, moi, c'est les matins. Souvent, c'est les vendredis matins. Et les parents s'arrangent.
Et les parents arrivent à se trouver un moment de disponibilité.
Alors, justement,
pour participer.
Les mamans sont souvent en congé maternité et les papas, ils vont prendre des jours de RTT.
Ils ont la RTT.
Voilà.
Ou leur droit au combien quelques jours là de paternité.
Voilà. Mais réellement, moi, j'ai eu beaucoup de papas qui sont venus en prenant des RTT.
Et donc, ces ateliers s'étalent sur combien de séances? C'est 3, 4, 5, 10 séances jusqu'à... Je sais pas,
on va dire que c'est entre 4 et 6.
4 à 6 séances, pour vous, d'une heure et demie à chaque fois.
Entre 3 quarts d'heure et 1 heure, suivant les animatrices.
Oui, ça dépend des animatrices. Voilà. Et vous constatez, à la fin, des gros progrès, aussi bien des parents, je dirais, que du bébé?
Oh non, ça, c'est quelque chose qu'on donne, qu'on propose, et les parents ont besoin de s'en imprégner. On leur donne les moyens de pouvoir apprendre ces signes, de pouvoir se les approprier. En revanche, il va falloir du temps, beaucoup de temps, pour que, ensemble à la maison, ils arrivent à les mettre en place, ils puissent revoir des comptines, mettre tout ça en place chez eux. Hein. Mm-hmm. Voilà. Et puis après, les bénéfices, on les a plus tard. Mais des fois, on voit des bénéfices tout au long des ateliers, mais quand les petits sont vraiment jeunes, ils ne vont pas se mettre à signer tout de suite. En revanche, après, on a les vidéos, les photos les que les parents nous renvoient après. Et c'est vrai que c'est extraordinaire.
Il y a combien d'écarts entre chaque atelier? C'est un, comme vous l'avez dit, c'est 4, 5, 6 ateliers. C'est une fois par semaine? C'est une fois par mois?
En général, c'est une fois par semaine.
Oui. Une fois par semaine. Donc après, c'est vraiment, oui, c'est durant les tout premiers mois de la vie du bébé, en fin de compte, que ça se met en place.
Exactement. Parfois, on peut laisser deux semaines entre deux séances.
Est-ce que les bébés qui sont passés par ce genre d'atelier arrivent au langage parlé plus facilement et plus rapidement que les autres? Ou est-ce que vous constatez que non, en fin de compte, chacun se met à parler à peu près au même âge
Alors, c'est une question...
Non, mais je la pose comme ça. Si vous n'avez pas la réponse...
C'est une situation qui me dérange un peu, parce que si on lui propose ça aux enfants, c'est d'abord pour mieux connaître le monde, pour pouvoir mieux s'approprier, pour créer du lien avec le parent. C'est pas pour qu'il parle plus tôt. Voilà, donc du coup, effectivement, aux États-Unis, il y a deux chercheuses, Suzanne Acredolo et... Non, Suzanne Godwin et Linda Acredolo, qui ont fait des études sur le baby sign et qui ont pu montrer beaucoup de bénéfices, notamment sur le plan linguistique, donc en termes de vocabulaire, de précocité cognitive, de plein d'éléments qui montrent que ça a vraiment des bienfaits au niveau du développement global et même, je dirais, cérébral du bébé. Nous, on s'est rapprochés de chercheuses françaises, lyonnaises même. Pour l'instant, c'est juste à l'étape de projet, mais on aimerait aussi... alors nous, on ne voudrait pas forcément s'intéresser à l'aspect vraiment linguistique, on voudrait s'intéresser surtout à l'aspect relationnel, c'est-à-dire pouvoir montrer que le bébé va pouvoir plutôt rentrer dans la relation, dans l'interaction. C'est-à-dire ça va être des bébés qui vont regarder plus leurs parents, qui vont être plus à l'initiative des échanges, qui vont être plus à l'aise dans leur communication en général. Et ça, à tous les âges, en fait, on va avoir à tous les âges des progrès. C'est des bébés qui comprennent mieux le monde. C'est vraiment l'accent qu'on veut apporter, nous signer avec moi. C'est là-dessus que le concept a évolué. À l'époque, on parlait de bébés signeurs. Aujourd'hui, on parle plutôt de bébés pensants. C'est-à-dire qu'ils sont capables...
Quelle est la différence?
C'est-à-dire qu'on ne propose pas des signes juste pour que le bébé un jour puisse signer. Il y a des enfants, nous on propose et le bébé il dispose. S'il n'a pas envie de signer,
peu importe.
Moi, mon fils a très peu signé. Par contre, quand il s'est mis à signer, il a beaucoup signé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là pour ça. Nous, par exemple, si on voit un dalmatien, on va faire le signe du chien, et puis le lendemain on voit un caniche, on fait toujours le signe du chien. L'enfant, ça va lui permettre de construire son concept du chien. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, le chien ou sa taille, c'est un chien. De toute façon.
Donc en fait, on va lui apprendre à comprendre le monde. Oui. Quand il va pleuvoir dehors, on va faire le signe de la pluie. On va marquer des éléments qu'on pense qu'il est capable de comprendre. Et plus tard, on va avoir des petits bébés à peine en capacité de marcher qui vont nous montrer dehors et qui vont signer la pluie. Et là, on va dire, il comprend beaucoup plus de choses. D'accord. Qu'on pensait.
Donc au niveau du langage, pas beaucoup de différence en fait.
Je pense qu'il y a énormément de bienfaits personnellement.
Pensez qu'il y a du bienfait le jour où ils se mettent à parler?
En termes de ce que nous on sait, qui n'est pas prouvé scientifiquement aujourd'hui, mais on a quand même.
C'est votre expérience quand même.
On a quand même plusieurs personnes de l'association qui ont pu le vivre avec leurs propres enfants aussi et qui ont pu noter, faire des tableaux avec des comparatifs, les mots qui ont été signés en premier, les mots qui ont été parler, à quel âge, etc. Et on observe quand, par exemple, le mot chien, qui est très difficile à prononcer, est souvent signé très tôt. Et puis après, il apparaîtra bien plus tard dans la bouche.
Vous dites que le mot chien, c'est un mot très difficile pour à prononcer pour un enfant?
Le ch, c'est un son qui est complexe.
C'est
le
ye,
le un, c'est des sons qui sont compliqués. Et l'association des trois au sein d'un même mot très court, c'est compliqué.
Est-ce que, comme on le croit toujours, les premiers mots, c'est papa et maman?
En signe, non. Souvent, non. Alors, les signes qui reviennent souvent pour les bébés, c'est encore, quand ils veulent manger encore.
Ah, d'accord, oui.
Et d'ailleurs, si je peux me permettre, tout à l'heure, vous demandiez si au sein des sessions, on avait justement des enfants qui signaient sur les... Donc, effectivement, je rejoins Laure en disant que c'est tout un travail qui se fait au fil du temps. Mais en revanche, effectivement, le signe encore, j'ai eu l'expérience très récemment, la semaine dernière, en atelier. Lors du dernier atelier, une maman qui était toute pleine d'émotions parce que J'ai fini de chanter une comptine et un petit garçon qui avait moins de 10 mois m'a regardé et m'a fait le signe encore. Voilà.
Ah oui.
Donc beaucoup d'émotions et puis aussi le signe gâteau qui est revenu une maman.
Alors le signe gâteau c'est quoi?
C'est le point en fait, le point fermé qui est posé sur la mâchoire,
le bas
sur
du
côté
visage.
De la mâchoire, voilà.
Et ça veut dire gâteau.
Exactement. Et qui tape deux fois.
On tape deux fois et ça veut dire gâteau.
Ça veut dire gâteau. Et une maman en dernier atelier avait apporté pour fêter la dernière un petit paquet de gâteau. Et cette petite fille a attrapé le paquet de gâteau, a regardé sa maman et a fait le signe du gâteau.
D'accord.
Donc voilà. Donc durant ces 6 séances-là, cette petite fille avait réussi à s'approprier ce signe.
D'accord. Franck, la prochaine fois que tu viendras m'accompagner dans l'émission, je te ferai le signe du gâteau. Comme ça, tu sauras ce que ça veut dire. Tu te rappelleras. Hein, le point fermé deux fois sur le bas de la mâchoire.
C'est ça. Très bien. Je suis étonnée qu'à la radio, vous n'ayez pas déjà utilisé les signes parce qu'à travers la vie, ça serait super
mais
utile.
Nous, on se comprend. Il y a des gros moyens techniques dans cette radio.
Non, bon, vous l'avez vu, on a à peu près le même âge, on est un vieux couple. Hein. Non, je blague. Donc, alors, les bébés, vous le dites, c'est quasiment tout petit. C'est-à-dire, en gros, dès un mois, vous avez des bébés. En dessous de un mois, peut-être pas quand même.
Oh, ben rarement, parce qu'ils ne sont pas
alors,
bien.
Alors, moi, j'ai des mamans enceintes, des fois.
Oui,
on a des mamans enceintes, des fois en atelier. Oui, de plus
alors
en
là,
plus.
Qu'est-ce que ça apporte?
Eh ben disons que quand le bébé...
Parce que le bébé, on dit qu'il perçoit les sons,
oui,
il met
mais
des gestes à
là,
l'extérieur.
C'est vrai que la démarche, elle va être un petit peu différente. Et ce sont des mamans, du coup, qui ont envie d'être opérationnelles
dès
la naissance du bébé.
Ah oui, d'accord. C'est...
Donc la démarche est un petit peu différente, parce que du coup, nous, ce qu'on préconise au sein de l'atelier, c'est justement le fait de sortir avec son enfant, de rencontrer d'autres familles, etc. Mais ça se fait relativement.
Et puis après, on propose aussi des ateliers révision.
Oui.
Donc c'est vrai que éventuellement des mamans qui auraient connu les ateliers pendant leur grossesse peuvent tout à fait revenir après faire des ateliers révision où là on va faire beaucoup, enfin il y a plein de parents de qui ont fait des sessions différentes qui se réunissent avec nous et on va chanter, on va jouer encore. Nous on fait souvent sur les thèmes des saisons donc à chaque saison.
Les bébés les plus âgés ont quel âge à dire? Parce que dès qu'ils ont le langage, la parler, je suppose.
Alors moi il m'est arrivé d'avoir des enfants bien plus âgés qui viennent en atelier.
Donc qui parlent mais qui continuent de venir?
Non, justement,
qui
ne parlaient pas ou très mal. Et c'est donc du coup des enfants que moi j'ai accepté en atelier parce que j'ai aussi la fibre orthophonie.
Oui, bah oui, c'est
mais je regrette qu'on n'ait pas encore développé, c'est un projet au sein de l'association, une branche pour les enfants qui ont un retard de langage parce que du coup c'est pas tout à fait leur place d'être en atelier avec des bébés on va dire tout venant qui vont bien etc. Et en même temps eux ils ont vraiment vraiment besoin d'un lieu et d'atelier pour eux vraiment spécifiquement. J'ai eu quand même plusieurs cas d'enfants comme ça qui sont beaucoup plus grands, hein, entre 18 et 24 mois, voire parfois plus, et qui sont pas du tout dans les mêmes étapes de développement, mais qui ont besoin de signes de manière urgente.
Et le signe peut devenir déclencheur de réalité.
Oui, c'est tout à fait.
Alors, allez, on continue en musique, on va continuer d'en parler après. Ce coup-ci, vous avez choisi Hélène Boye qui nous chante La Mouche.
La Mouche, c'est l'hymne un petit peu. C'est une chanson star en atelier.
Ah, c'est la chanson star. Bah, alors, on l'écoute vite, alors.
Shut up. moi. J'aime pas la douche, je suis un peu farouche et je préfère ma baignoire. Comme ça, je peux y boire et puis j'ai pas mon canard. Mais non, je fais pas d'histoire, j'aime pas beaucoup l'eau. Ça me fait froid dans le dos, ça me colle à la peau, c'est vraiment pas un cadeau. Je préfère attendre l'été, quand j'ai bien transpiré, alors là, je veux bien me laver de la tête aux pieds.
Sous la douche, on chie la bouche, on pas me mouiller. Sous la douche, on chie la bouche, on mes habillés. Sous la douche, on chie la bouche, on je vais pleurer. On la mouche, on la touche, on va laver.
Ce que la veille.
Sous la douche, chie la bouche.
De la culture, de l'humanitaire, de l'actualité. Passeport francophone, de la culture, de l'humanitaire, de l'actualité.
Ah bah alors l'actualité aujourd'hui, bah c'est signe avec moi, hein, donc signe, le signe, le langage des signes, et surtout axé vers les bébés, puisque c'est de cela que l'on parle.
Je voudrais juste dire...
Oui, Dominique, allez-y. Rajoutez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème.
Vous parlez souvent de langage des signes.
Ah. Oui, c'est pas le bon terme.
Pas bien, pas le bon terme.
Bon, bah ça y est, je vais me faire gifler, moi.
C'est la langue des signes.
Alors c'est la langue, bon, alors je rectifie, donc c'est la langue des signes.
Et les sourds c'est, à qui on emprunte donc...
Quel est, langage, langue,
c'est
langage.
Le langage gestuel.
Mais ah, c'est un langage gestuel, c'est mais c'est langue, la langue,
c'est
des,
la langue
signes.
Des signes. On parle de la langue française.
C'est vrai qu'on a appris quelque chose ce matin.
Oui, je connaissais pas la différence, effectivement.
Oui, ben voilà, ben moi non plus. Donc,
le langage gestuel,
donc,
le langage des fleurs, le langage informatique.
Donc, c'est la langue des signes et c'est une langue. Oh là là.
Une vraie langue avec ses particularités grammaticales, bon, alors, sa syntaxe. Ça, et les sourds y tiennent vraiment.
Mais ouais. ça tombe bien je que vous me repreniez, puisque je crois avoir compris que vous êtes formatrice au sein de cette association.
Oui, je suis formatrice.
Alors, puisque vous êtes formatrice, pour devenir animatrice, puisqu'on l'a dit, il y a beaucoup plus de femmes, mais on va dire qu'il y a peut-être des hommes que ça va tenter.
Je pense, en fait, que
c'est
la...
combien de temps la formation ?
Alors la formation se fait en deux temps, en deux sessions.
Oui.
La première session dure 3 jours.
Sur trois jours pleins, trois jours consécutifs.
Oui, trois jours consécutifs, vendredi, samedi, dimanche.
Ah oui, c'est lourd quand même, trois jours consécutifs.
Et même jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche.
Alors vous faites ça dans un lieu bien particulier ?
Tout à fait. On réserve une salle. Hein.
Oui, bien sûr.
Ensuite, il y a une interruption d'environ 2 mois pour permettre...
C'est bon, 2 mois de coupure, non ? Il y a des travaux à faire entre-temps ?
Je pense que ça suffit, parce qu'il y a effectivement beaucoup de travaux à faire.
Trois jours, déjà, c'est vraiment intensif.
Il faut créer un jeu, il faut créer une histoire, il faut... Et tout ça sur un thème qui a été prédéfini. Et chaque future formatrice, future animatrice, pardon, lui a été attribué un thème. Donc une histoire, un jeu, une chanson, un goodies, quelque chose à préparer pour offrir aux parents à la fin d'une session. Et puis tout le monde se retrouve pour à nouveau 2 jours et demi ou 3 jours.
Pareil, à nouveau, vendredi, samedi, dimanche.
Voilà. Et tout ce travail est mutualisé.
D'accord,
ce qui fait qu'à l'issue de la formation, c'est un petit peu la force de notre réseau, c'est que chaque future animatrice a tous les outils
tous en les outils en main.
Elle a tous les moyens pédagogiques, tout est prêt pour elle. Elle a le synopsis, c'est-à-dire le,
oui, oui.
Voilà, d'accord. Et à elle maintenant d'organiser des ateliers.
Leurs ateliers.
Des ateliers qui sont d'ailleurs gratuits au départ, pour s'y faire un petit peu,
oui, oui, bien sûr,
avec
oui.
Des amis, avec.
Oui, faut tester quand même.
Pour tester. Mmh. Et à l'issue de tous ces ateliers, elles doivent remplir donc un dossier de synthèse qui est relu par les formatrices et elles sont validées.
C'est ce qui permet de valider la formation ou pas.
Et si elles sont validées, vraiment, les parents peuvent compter vraiment sur une formation de qualité.
D'accord. C'est une formation qui est payante pour les candidates.
Oui, c'est une formation qui est payante.
Qui est de l'ordre de
600 euros à peu près
pour
la totale, oui.
D'accord.
600 euros, parce que c'est pas très cher. C'est pas très cher pour pratiquement 40 heures.
Oui, c'est ça, en
pour
fait.
Pour environ 40 rapport, heures, oui, c'est pas très cher. Et bon, mais il y a des frais qui sont quand même importants, les locations de salles.
Oui, bien sûr.
Quand on le fait sur Paris, il y a 4 formatrices, donc ça représente.
Ah, ça se fait sur Paris en général, la formation? Non, pas spécialement.
Ça se fait sur Lyon, ça se fait sur Metz.
Oui, ça dépend.
Ça dépend.
Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que ce genre de formation peut être pris dans le cadre de la formation continue pour les salariés en entreprise? Quelqu'un qui est salarié en entreprise, qui est intéressé par un dispositif?
Il peut effectivement y avoir une demande, il peut y avoir une prise en charge.
Ça peut être pris en charge.
Pôle emploi.
Ça rentre dans le cadre.
Ça peut rentrer dans le CPF, oui.
D'accord. Ces formations, donc, il y a combien de temps que vous les animez vous-même?
Moi-même, ça fait 4-5 ans.
Et c'est des formations qui, pareil, regroupent combien de futures animatrices?
Oh, entre 12 et 18. La dernière session,
il y avait 18. Ah oui, c'est assez important quand même.
Oui, 18 c'était un petit peu trop.
18 c'est beaucoup quand même.
Mais comme on est 4.
Moi-même ayant été formateur dans une autre vie, 18 c'est beaucoup de monde.
Mais 4 formatrices, ça permet quand même de faire des
choses. Ah, vous êtes 4 formatrices ?
Oui, 4 formatrices.
Ah oui, d'accord. Vous n'êtes pas toute seule pour animer un... Ah non, parce que j'allais dire, seule devant un groupe de 18 personnes, c'est...
C'est plus de la formation, c'est de la formation.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Non, mais nous sommes 4 formatrices.
Ah bon, alors là, d'accord. Ça veut dire qu'on peut travailler en sous-groupe dans ces cas-là.
Tout à fait.
Alors, tout à l'heure, là, pendant qu'on écoutait la mouche, vous vous êtes mise à chanter.
Et à signer.
Donc moi, j'ai assisté à la mouche.
En direct.
Et puis, vous m'avez dit, mais on a un hymne.
Eh oui, mm-hmm. L'hymne national.
C'est l'hymne national. Alors, ce ne sera pas la Marseillaise, hein, je rassure tout de suite les auditeurs. Mais c'est le l'hymne de signe avec moi.
Oui.
Ben, vous êtes prête?
On est prête.
Ah, ben, allez, on vous écoute. C'est parti.
Quand je signe avec maman, elle comprend et je suis content. Quand papa signe avec moi, tous les deux on aime ça. Signer avec les bébés, super avant de parler.
Wow, c'est beau. Qu'est-ce que t'en penses, Franck?
Oui, c'est pas mal.
En fait,
c'est...
Hein? Et en plus, on a eu le droit au signe, nous, en même temps. Hein? On a eu la chanson, mais on a le droit au signe en même temps. Alors, le papa, le signe, c'est comment, papa?
Papa.
Alors, papa, c'est le pouce et l'index.
Pouce et index. Comme si on faisait la forme d'un L.
Ah, d'un L.
Voilà.
Et on le met
à l'angle
près de la bouche.
Le pouce sur la moustache.
Sur la moustache.
Voilà. Et avec l'index, on tape deux fois sur le pouce.
C'est ce que Dominique tout à l'heure. Donc, il y a des syllabes et on essaie avec les gestes de montrer à l'enfant que c'est papa, donc deux syllabes, on tape deux fois. Ouais. C'est comme pour gâteau tout à l'heure.
C'est comme exactement.
On tape deux fois avec le poing sur la mâchoire.
Tout à fait.
Quand on dit on tape, attention, hein, c'est pas des coups quand même.
On va dire on scande le mot.
On scande le mot,
en
voilà.
En fonction du nombre de syllabes et ça aide l'enfant. Ça aide la mémoire motrice de l'enfant pour dire le mot.
C'est ça en fin de compte.
Et puis ça peut aussi faciliter justement la compréhension. Alors le mot gâteau, on a dans le même sens un petit peu tout ce qui est les mots en atteau, le gâteau, le râteau, le bateau,
oui,
le marteau,
beaucoup,
etc.
Ouais.
Et bien souvent des enfants qui commencent à parler, on va entendre quoi? On va surtout entendre atteau, atteau, atteau,
bah
atteau.
Oui. Bah
donc
oui.
papa ou maman ne comprennent pas ce que bébé veut dire.
Ah oui.
Bébé s'énerve parce que papa et maman ne comprennent pas. Donc, au bout d'un moment, quand il y a comme ça cette incompréhension, si le signe peut arriver ici un petit peu comme, comme un sauveur, ouais, c'est quand même assez extraordinaire. D'accord. Parce que dès qu'on fait le signe, ben, maman ou papa va dire « Ah, tu veux un gâteau ?» ou « Ah, tu veux parler du bateau ?» Voilà. Voilà.
Okay, je pense aussi qu'il y a quelque chose d'important à ajouter par rapport à la bienveillance. Hein.
Oui.
Hein, parce que signer avec les bébés rentre vraiment dans une démarche de bienveillance.
Mais c'est ça en fait.
Oui, tout à fait. Parce qu'on va donner la possibilité à un enfant de nuancer toutes ses émotions. Parce que toutes les émotions se signent. Hein, elles nous touchent, elles touchent notre corps.
Ouais, ouais, ouais.
Toutes les émotions se signent. Donc l'enfant, il va pouvoir dire pourquoi, par exemple, il pleure. Il peut pleurer parce qu'il est triste,
oui.
Il peut pleurer parce qu'il a mal,
il a mal, oui,
il peut pleurer.
Et on ne sait pas toujours, c'est ça.
Et voilà. On ne sait pas, on ne voit que le pleur.
Bah oui.
On ne voit que l'expression du visage.
C'est vrai, combien de fois, étant parent, on a dit il pleure et on ne sait pas pourquoi. Il a mangé, il est propre, voilà. Et il pleure quand même. Dans
voilà. Ce, bien, il peut pleurer aussi parce que précisément il est sale.
Oui, oui, hein, oui, bah oui, c'est aussi un signe.
Il peut pleurer parce qu'il a envie de voir maman. Donc, ça, on va lui proposer.
Hein, avec déjà, les signes, on va arriver à comprendre ce qui se passe.
Complètement, complètement, complètement.
Et ça, vous l'avez vécu.
Ah, mais absolument.
Ah oui, absolument.
Un enfant qui pleure, les parents ne savent pas pourquoi, rien qu'avec les signes.
Je vais vous donner un exemple très très précis. J'ai mis mes petits-enfants un jour à un atelier d'art graphique. C'était en septembre et le petit-fils dont je voulais vous parler, il est du mois d'octobre.
Ouais.
Donc il n'avait pas 2 ans. Et il a voulu rester à cet atelier d'art graphique qui est proposé à des enfants beaucoup plus grands,
ouais.
Des enfants qui étaient plus grands. Et il était très déçu. Il est rentré, je l'ai mis dans la voiture et il pleurait. Et je lui ai dit, tu es en colère. Et il m'a regardé, il a fait le signe triste.
Ah oui.
Donc à pas 2 ans, il a été capable de nuancer son émotion. Donc vous voyez tout l'intérêt, hein, toute cette.
Ah en effet, oui. Je
ça va très
pas,
très loin. Ça va très très loin.
Oui, non, mais je pensais pas que c'était à ce point. J'avoue,
et
je suis agréablement surpris parce que vous proposez comme méthode en fait.
Les enfants en fait après vont conserver cette facilité de communication, cette facilité d'accès à leurs propres émotions. En fait, on leur a donné une place d'interlocuteur tout petit qu'ils ont prise volontiers,
oui.
Et ça perdure. Moi, je vois mon fils qui a aujourd'hui 3 ans et demi, il est capable d'exprimer des choses sur ses ressentis, sur ses besoins, vraiment de façon étonnante. C'est quelque chose qu'on ne croise pas tous les jours. Et pour revenir à cette notion de bienveillance, en fait, il y a quelque chose qui nous tient aussi beaucoup à cœur à signer avec moi, c'est la question de la posture de communication. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, ben, on le vit tous les jours, hein, qu'un bébé, tant qu'il ne parle pas, hein, c'est un être en devenir. C'est un être
oui.
Dont on s'occupe, hein, dont on prend soin, mais finalement, on attend. On est toujours dans l'attente, jusqu'à environ 12 mois, et encore, à 12 mois, les premiers mots, c'est souvent des mots très simples et des ébauches de mots
c'est
qu'on
ne
comprend pas très bien. Alors qu'à partir du moment où on signe, quelque part, c'est déjà un outil de prévention parce que ça nous oblige, nous en tant que parents, à se mettre à la portée de l'enfant, à le regarder, à être vraiment disponible à ce qu'on dit et à ce qu'on fait avec lui. Se mettre en face à face, avoir le contact visuel, et rien que ça, ça veut dire considérer le bébé bien autrement qu'un juste un bébé qui voilà, qui fait caca, qui mange et qui.
Oui, bah oui, parce que bah
voilà.
Oui,
c'est-à-dire que là,
un bébé c'est ça. Hein, de
voilà,
toute façon.
On va pouvoir lui expliquer ce qu'on va lui faire, qu'on va aller prendre un bain, qu'on va partir chez mamie, etc. Et tout ça en le regardant, en se mettant à sa distance, enfin à courte distance, et en faisant bien attention à ce qu'il nous regarde, et etc. Et donc l'histoire aussi de la syllabation. Ça d'un point de vue orthophonique, on sait bien qu'au niveau de la construction du langage, le rythme, c'est vraiment le moule de la parole, c'est ce qui va permettre à l'enfant de séparer aussi les unités lexicales en mots signifiants, et du coup cette histoire de rythme, quand on va faire par exemple papa, si l'enfant ne regarde pas tout de suite, on va attendre son regard et après on va
faire,
papa, et du coup là tout de suite on a mis quelque chose, un code visuel quelque part qui vient vraiment étayer le mot oral.
Est-ce que les enfants, puisque vous parliez de votre fils qui a donc 4 ans et demi, vous dites
3 ans et demi.
3 ans et demi, donc il parle aujourd'hui.
Très bien.
Mais oui, comme sa maman.
Un peu trop. Comme sa maman.
Il est à bonne école apparemment.
C'est ça.
Donc il parle. Est-ce que malgré cela, il continue d'utiliser le langage des signes avec vous dans certaines situations, bien sûr?
Alors, il signe de temps en temps. En plus, il est chez sa nounou avec une petite fille d'enfance de parents sourds, donc qui, elle, entend, mais qui utilise la langue des signes en langue première.
Ah oui.
Donc, il est quand même encore un petit peu baigné dans la langue des signes tous les jours. En revanche, nous, le signe qu'il utilise le plus, c'est quand même le signe aimé. Voilà.
Alors c'est quoi le signe aimé?
Je t'aime.
Ah, on passe la main sur la poitrine, voilà, à plat, et on remonte et on dirige vers la personne que l'on aime.
Exactement. Et puis maintenant, puisqu'il est presque ado, il dit plus je t'aime, il dit I love you. en langue des signes américaine. Voilà.
Alors, ce que vit Laure avec son propre enfant, est-ce que vous l'avez constaté chez d'autres enfants qui ont le langage, mais qui continuent quand même d'utiliser de temps en temps les signes?
Alors oui, non pas qu'ils continuent à utiliser parce qu'ils n'en ont plus vraiment moi je voudrais vraiment dire que les signes, en fait, les enfants les stockent quelque part. Ils n'oublient pas, ils n'oublient pas.
Ça reste en engravé quelque part dans la mémoire.
Je vais vraiment vous donner un exemple qui va vous faire sourire. J'ai un petit-fils qui était dans une école bilingue. Il a 10 ans. C'est un petit garçon qui a très peu signé. Il était dans une école bilingue. Il a 11 ans maintenant, donc il est en 6e.
C'est un grand.
Il est au collège.
Ah bah oui.
Et il avait une poésie anglaise à me réciter et il butait sur le mot now. Ça sortait pas. Et je lui ai fait le signe now et il m'a dit arrête de souffler.
Donc il avait compris. Il a compris.
Il s'est souvenu du signe. Il m'a reproché de lui avoir soufflé parce qu'il voulait trouver tout seul.
Oui.
Donc je trouve ça absolument.
Attends, qu'il avait...
ça va très loin.
Ah oui.
Le signe vient en indissage, en fait, du mot.
Oui.
Parce que c'est un mot anglais en plus, là.
Mais tout à fait. Donc il a fait complètement le lien.
Oh là.
Les signes, c'est les ponts entre les langues.
Ce sont des ponts langagiers, oui.
Donc, notamment pour les crèches, ça peut être très intéressant pour les professionnels de la petite enfance, parce que quand ils ont des enfants de diverses origines, le signe va pouvoir vraiment relier, donner un langage commun à tous les enfants de la structure et les professionnels de la structure, alors même qu'à la maison, ils ont des langues maternelles différentes.
D'accord. Est-ce que ça veut donc dire que cette langue des signes...
Bien.
Il faut que je me corrige. Hein. Cette langue des signes, elle est universelle, en fait
Non, pas du tout.
Ah non, justement.
Non, elle n'est pas universelle.
Les Anglais n'utilisent pas forcément la même signe.
Ils ont leur propre langue des signes, oui.
Ah, bon, donc...
Chaque pays a sa propre langue.
Peut-être enfin quelque chose qui serait universel, mais non, en même temps.
En 48 heures, un Français, un Anglais, un Japonais, un Espagnol, en 48 heures, ils arrivent à se comprendre
par le biais de leur signe.
Oui, c'est assez magique.
Ça veut dire qu'il y a des signes qui se ressemblent quand même. Alors.
Oui, c'est iconique d'abord.
Oui.
Ce sont des images. Et très vite, ils arrivent à se comprendre de par la situation, de par. Ou bien ils peuvent dactylologer. Hein,
Dactylologer,
c'est l'alphabet.
Oh là là, on peut dactylologer.
On en a appris des choses
aujourd'hui, Franck.
Ouais, je suis pas sûr que dans mon vieux dictionnaire, ça soit écrit ce mot-là.
En fait, l'alphabet en langue des signes ne s'appelle pas alphabet, mais dactylologie.
C'est la dactylologie.
Donc on utilise le verbe dactylo,
en fait. Je comprends. On a appris plein de choses encore aujourd'hui. Ouais. Bah, écoutez, on arrive presque au terme de cette heure d'émission qui vous est. Vous voyez, ça passe vite une heure en fin de
c'est
compte.
Vrai.
Hein.
Moi, je voudrais quand même rajouter.
Encore un peu de temps.
Dire que signer avec son bébé, ça nous met vraiment dans une posture d'observation très très positive.
Pour les parents.
Ou
les grands-parents, puisque les.
Ou les grands-parents.
Alors, est-ce qu'il y a des grands-parents d'ailleurs qui viennent aux ateliers?
Parfois, de plus en plus. Enfin, moi je l'ai constaté.
Oui. Ah bon, bah c'est
ils ont plus de temps, hein.
Ah bah en principe les grands-parents, oui, on est retraités, hein.
C'est
donc,
ça.
Ça donne une certaine complicité avec les petits enfants.
Bah oui, c'est évident, hein. C'est évident.
En fait, comme on parlait tout à l'heure des papas qui sont pas toujours convaincus au départ. En général, quand on arrive à les faire venir à un atelier, après ils s'inscrivent pour
la suite automatiquement.
Voilà. Oui.
Bon, donc vous êtes convaincus. En fin de compte. Avant qu'on termine, ce serait peut-être bien de donner, votre adresse, un site internet, un numéro de téléphone de votre.
Oui,
si des gens, suite à cette émission, sont intéressés, alors soit pour venir dans des ateliers pour leur bébé ou leur futur bébé, soit pour devenir peut-être un jour des animateurs ou animatrices.
Oui, tout à fait.
Alors, dites-nous.
Nous avons un site internet,
oui.
www.
Oui. Point.
Point.
Ouais.
Signe avec moi.
Donc tout attaché. Signe avec moi.com. Tout simplement.
Et puis une page Facebook aussi.
Oui.
Donc pareil, signe avec moi.
Signe avec moi France. Et il y a signe avec moi Ronald aussi.
Alors il y a signe avec moi France et signe avec moi Ronald. Voilà. Donc il y a deux pages Facebook en
fait. Exactement.
D'accord. Il y a un numéro de téléphone aussi ou non? C'est plutôt par le biais de.
En général, c'est par Internet.
Par Internet. Donc www.signeavecmoitoutattaché.com. ou alors signe avec moi France ou signe avec moi Ronald.
Sur Facebook.
Sur Facebook, bien évidemment. Voilà, vous avez quelque chose encore à ajouter ? Vous avez, allez, une minute.
Moi, j'embrasse mon fils qui s'appelle Charles-Élie.
Comment il s'appelle ?
Charles-Élie.
Ça vient de Charles-Élie Couture ?
Exactement.
C'est vrai ?
Oui.
Vous êtes fan de Charles-Élie Couture ?
Disons que le prénom nous plaisait bien. Et puis en plus, on aime bien Charles-Élie Couture.
Oui, c'est pas courant comme prénom.
Bah oui.
Et pour le deuxième, vous avez déjà choisi ?
Non, on sait.
Vous savez déjà
ce que c'est ? On est en réflexion. C'est un petit garçon.
Ah, c'est encore un garçon ?
C'est ça.
Mais pour l'instant, là, vous savez pas ?
Non.
Bon. Alors, Hélène, vous avez peut-être aussi un petit coucou à faire ?
Je vais faire un petit coucou à toutes les animatrices et formatrices signées avec moi. Et puis à toutes les parents, familles, enfants qui nous suivent au sein des ateliers. Et j'espère qu'on va continuer sur cette voie avec grand bonheur.
Vous êtes bien partie. Et vous, Dominique, alors, madame la formatrice en chef.
Je voudrais remercier Radio Plurielle.
Ah, mais oui, c'est vrai. Alors, merci. Hein, la main à plat sur le menton.
Alors, merci. C'est la main à plat sur le menton.
Voilà. Qui avance vers l'un
et on avance.
Vers l'autre.
Bon, voilà, bah alors, merci.
Remercier aussi notre présidente, Chantal.
Oui, Chantal. Voilà.
D'accord. Eh bien, on termine en musique avec Anne Coissy qui chante Mon Doudou. Franck, tu es peut-être le doudou d'aujourd'hui. Allez, merci en tout cas d'avoir pris de votre temps pour venir nous parler.
Merci.
Mais moi, j'avoue que j'ai découvert plein de belles choses. Bon, j'ai plus de tout petit à la maison, mais peut-être que si un jour je suis arrière grand-père,
voilà.
Il sera temps. Je vais en parler à mes petits-enfants, mais ils n'ont que 15 ans, c'est encore un peu loin quand même. Hein. Allez, on se quitte donc avec Anne Coissy. Merci, et puis d'ici là, francophonement vôtre.
Je te cherche.
Sur l'infotrafic du Grand Lyon.
Bonjour à tous, la métropole de Lyon vous informe d'un accident qui vient à l'instant de se produire sur le périphérique nord en direction de Paris, plus précisément à hauteur du viaduc du Rhône. Prudence si vous approchez de ce secteur puisque la voie lente et la voie médiane sont neutralisées, vous pouvez uniquement circuler sur la voie gauche. Et puis côté fermeture, ça concerne toujours le périphérique nord, il sera fermé de 21h à 6h ce soir dans les deux sens. N'hésitez pas à emprunter les itinéraires de substitution suivants, direction Paris ou S11, direction Genève ou Grenoble. Attention également, côté fermeture, ça se passe en centre-ville avec le tunnel des Tchécoslovaques qui sera fermé de 21h à 6h. Côté circulation, c'est fluide dans l'ensemble de l'agglomération. C'est fluide également du côté de la périphérie. Mais prudence si vous êtes à Villeurbanne. Le cours Émile Zola est réduit depuis la rue Baudin. Sachez qu'à Caluire, l'avenue Dufour est interdite depuis le chemin de Crépieux. Et puis côté Bison Futé, c'est vert vendredi et dimanche dans les deux sens. Mais prudence, redoublez de vigilance samedi, puisque ce sera rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. On vous conseille fortement d'éviter de circuler sur les grands axes entre 9h et 18h. Plus d'infos, c'est sur unimove.com que ça se passe. Excellente journée à vous.
C'était l'infotrafic du Grand Lyon avec Unimove. Radio Pluriel présente les 50 ans de carrière.
De l'éternel Lounis et Miglet, 50 ans déjà.
Le dimanche 9 avril à l'espace Mosaïque à Saint-Priest à partir de 15h.
Réservation, Fnac, Leclerc, Carrefour, Auchan.
Radio Pluriel. Radio Pluriel. Numéro 1 sur la diversité. Radio Pluriel.